Cyril Javary, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, d'où vient le mot Chine, qui n'a pas toujours désigné l'Empire du Milieu ?
Mais il a toujours désigné l'Empire du Milieu en dehors de l'Empire du Milieu. Et il vient du nom du premier empereur, Qin Shi Huangdi, qui a unifié la Chine vers 221 avant Jésus-Christ, dont vous avez certainement entendu parler de l'armée en terre cuite qui garde son tombeau à Xi'an, qui a fait la Grande Muraille, et qui était d'une brutalité telle qu'il était connu dans toute l'Asie. Et comme peu de temps après, les premiers missionnaires bouddhistes sont arrivés en Chine, et que ça a intéressé les Chinois, et qu'il y a eu des Chinois qui sont allés en Inde, et je ne sais pas si vous connaissez les Indiens, mais ils ont une habitude, quand on va chez eux, ils vous demandent « Where do you come from ?» Des fois, il y a des variantes, ils disent « To which country do you belong to ?» Et donc, quand les premiers Chinois sont arrivés en Inde, les Indiens leur ont demandé « Where do you come from ?» Et ils ont répondu « Nous venons du pays de Qin, le grand empereur. » Et c'est comme ça que ce nom de Qin est parvenu jusqu'à nous, alors que les Chinois se sont toujours appelés eux-mêmes Zhongguo, le pays au centre du monde.
C'est évident, évidemment, qu'ils sont au centre du monde. Alors vous qui êtes un grand connaisseur de la Chine ancienne, est-ce que la Chine contemporaine puise dans la tradition la force de son développement, ou est-ce qu'elle a fait, comme Mao le souhaitait, table rase du passé ?
Il y a deux questions dans votre question. Donc, pour répondre à la première, je crois qu'il y a un exemple très clair de cela. C'est quand en 2003, le colonel Yang Liwei a fait 14 fois le tour de la Terre dans une capsule spatiale 100% chinoise, faisant rentrer la Chine dans un club assez fermé, le club des pays des puissances spatiales. J'étais à cette époque-là à Shanghai. Et je vous garantis que dans les rues, ça faisait plaisir à voir. Mais j'avais demandé à mes amis de me garder tous les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires, etc., qui relataient cet événement. Et parce que j'avais une petite idée derrière la tête que je voulais vérifier, et je l'ai vérifié. Tous les journaux ont donné du nom de la capsule chinoise la traduction officielle du service culturel de l'ambassade de leur pays. Shenzhou, vaisseau divin. Sans qu'aucun journaliste ne se soit interrogé pour savoir pourquoi un gouvernement marxiste-léniniste athée donnait à un fleuron de sa création technologique un nom théologique. Bien, l'explication est que, vous savez qu'on ne plaisante pas avec les noms en Chine, et celui-ci avait été choisi par Jiang Zemin lui-même. Shenzhou, c'est deux caractères. Zhou, c'est un vieux caractère qui veut dire bateau. Disons qu'on pourrait le traduire par nef pour lui rendre son côté ancien. Quant à Shen, ça veut dire esprit. Mais esprit au sens chamanique du terme. Donc Shenzhou, c'est pas du tout un vaisseau divin. C'est au mieux un vaisseau fantôme, ou pire, la nef des esprits. Mais pourquoi est-ce que Jiang Zemin a choisi ce nom ? Parce que il ne se distingue pas à l'oreille d'une autre expression chinoise, Shenzhou, le continent des esprits, c'est pas le même Zhou, mais c'est le même Shen, qui est le plus ancien nom que la Chine s'était donné à elle-même, avant même de s'appeler, comme nous le disions, le pays au centre du monde. Ce qui fait que la fusée s'appelait, elle, Changcheng, longue marche. L'ensemble formait un résumé absolument délicieux de l'histoire contemporaine du Parti communiste chinois, que l'on peut décrypter de la façon suffisante, deux points ouvrez les guillemets, grâce à la formidable poussée que nous a donnée le président Mao Zedong, Changcheng, la Chine est enfin digne de ses plus lointains ancêtres, Shenzhou. Et le message qui n'est absolument pas passé au-delà de la Grande Muraille, en deçà de la Grande Muraille, tout le monde avait compris, j'ai conservé des unes de journaux de cette époque-là où il y a marqué « Shenzhou revient sur Terre, Shenzhou éclate de joie ». L'affaire était entendue. Et que donc, alors que pour nous, l'avancée dans le futur est quelque part un déni du passé. C'est pour ça que, par exemple, l'adjectif « à l'ancienne » fait vendre, ici. Quand vous avez le choix entre une baguette et une baguette à l'ancienne, laquelle vous prenez, bon. En Chine, Si vous faites une baguette, si vous faites quelque chose à l'ancienne, vous faites faillite en 3 mois. Parce que les souvenirs que les Chinois vivants ont dans la tête ne sont pas très agréables. Et que donc, alors que nous, nous avons une sorte de crainte en avançant dans le futur, parce que le bon vieux temps, c'était toujours mieux avant. Eh bien, en Chine, non. Avancer dans le futur, c'est ce bond circulaire qui fait que les Chinois, qui furent tant humiliés pendant les 2 derniers siècles, commencent enfin à être dignes de leurs plus lointains ancêtres.
Alors, on a parlé du ciel, et ça tombe bien, parce que j'avais envie d'enchaîner sur cette phrase de Mao qui disait aux Chinois qu'il fallait monter à l'assaut du ciel. Alors, bon, il y avait la métaphore du vaisseau spatial, mais moi, je pensais plutôt que le ciel, c'était la croissance économique.
Je pense que quand Mao utilisait cette phrase, parce que le mot ciel a un éventail de sens extrêmement ouvert, il disait aussi « les femmes portent la moitié du ciel ». Et s'il a eu besoin de le dire, c'est parce que ses concitoyens l'avaient oublié. Mais c'est un autre problème, nous pourrons en reparler si vous voulez. Mais je crois que dans cette phrase, le ciel dont il parlait, c'est ce ciel qui avait délégué à son fils le mandat de régner sur terre. Et que donc le titre le plus élevé de l'empereur, c'est Tianzi, fils du ciel. Et donc, quand il dit « monter à l'assaut du ciel », c'est ce côté de... C'est Sun Wugong, c'est le singe pèlerin qui bouscule les hiérarchies et qui secoue. Et que « monter à l'assaut du ciel », à mon avis, c'est la même phrase que « oser lutter, oser vaincre », c'est-à-dire se débarrasser de ces vieilles structures féodales qui ont paralysé et qui ont failli tuer la Chine.
Donc c'était une manière de la rebooster.
Exactement.
Ça a bien marché. Pour comprendre la Chine, il faut comprendre comment les Chinois écrivent, car cela conditionne leur mode de pensée.
Les mots sont les outils avec lesquels on pense. Et on ne peut que penser différemment. Quand on écrit avec des agrégats de signes qui n'ont pas de sens, les lettres, ou bien quand on écrit avec des stylisations de dessins, comme des sortes de rébus, comme le sont les idéogrammes chinois. En particulier, le fait que nous écrivions avec des lettres fait que pour nous, il y a une évidence, il y en a même plusieurs qui en découlent d'ailleurs. La première, c'est que tout peut être réduit à un ensemble de phénomènes en petit nombre. C'est le principe de l'analyse. Et ce n'est pas pour rien que le mot « analyse », qui est le mode même de notre fonctionnement, s'écrit en chinois avec le caractère « couteau », parce que ça consiste à découper la réalité en petites entités pour pouvoir les faire jouer ensemble. Au contraire, on ne peut pas épeler un idéogramme chinois. Et que donc le fait d'apprendre à lire et à écrire de façon idéographique développe la vision holographique, développe une vision du tout, de l'ensemble. François Cheng, qui est le plus grand lettré chinois francophone, disait qu'une chose qui l'avait le plus étonné dans son apprentissage de la langue française, c'est que le même mot signifiait à la fois direction et signification. Ce mot, c'est sens. Sens de lecture. Car le principe de l'écriture littérale, c'est que l'information suivante doit toujours être au même endroit. À droite pour les écritures littérales, à gauche pour les écritures sémitiques et arabes, mais elle doit toujours être au même endroit. Et que donc le sens, la signification et la direction, c'est la même chose. Alors qu'en Chine, si vous suivez le trajet de la pupille d'un Chinois en train de lire un texte chinois, vous voyez que il tourne autour de l'idéogramme, puis il saute à l'idéogramme suivant, il tourne autour, puis il saute, il tourne autour. Parce qu'on ne peut concevoir un idéogramme que dans sa totalité. Ce qui implique le fait que la langue chinoise est une langue de contexte. Un idéogramme n'a pas de sens. Il a une surface. C'est tout à fait différent. Et il ne peut prendre sa signification que quand sa surface va rentrer en contact avec la surface des idéogrammes qui sont à côté de lui. Et c'est ça qui permettra de savoir si c'est un adjectif, un verbe, un nom, etc., etc.
C'est une histoire de résonance.
C'est une histoire de résonance, c'est une histoire de couplage, c'est une histoire de contexte. Et le chinois est une langue de contexte, et la pensée chinoise est une langue de contexte. C'est pour ça, par exemple, que des notions qui, pour nous, sont évidentes, l'individu, qui ne peut pas être divisé, en Chine est extrêmement difficile à comprendre. Et cette notion d'individu qui, pour nous, est évidente, en voulez-vous un exemple ? En voilà un tout simple. Les Chinois n'ont pas de prénom. Ils ont un post-nom. C'est pas pareil de dire « je m'appelle Françoise Objoie » ou de dire « je m'appelle Objoie Françoise ». Je fais partie du clan des Objoie et à l'intérieur de ce clan, on me distingue au nom de Françoise. Donc d'abord le groupe, ensuite la personne. Nous, nous avons un prénom parce que cela prévaut sur le nom. Et c'est dans la tradition chrétienne, qu'on en pense ce qu'on en veut, le résultat de la signature d'un contrat entre un créateur et sa créature, qui définit une identité. Comment dit-on carte d'identité en chinois ? Le mot n'existe pas. Shenfengzheng, c'est ce qui se traduit pour, mais c'est pas ça qui a marqué. Shenfengzheng, c'est trois idéogrammes. Zheng, le dernier, veut dire document qui atteste, il est courant pour beaucoup d'autres documents. Fen, c'est le corps humain, et fen, c'est la place dans un ensemble. Autrement dit, ce qui pour nous définit l'identité, en chinois, est ce qui définit votre place dans un ensemble. Et il y a pire encore. Il existe en chinois un caractère qui spécifie, on l'appelle d'ailleurs un spécificatif, qui spécifie la chose dans son unité. Ah ben voilà quelque chose qui va nous permettre de traduire nos notions d'individualité. Et cet idéogramme ge, il représente un bambou. Les feuilles d'un bambou. Ben c'est malin. Vous savez ce que c'est les bambous ? C'est des rhizomes. Et qu'est-ce que c'est les rhizomes ? Ce sont des racines souterraines, horizontales, qui de temps en temps poussent des surgeons. C'est-à-dire que nous, nous voyons les pousses de bambou ou les bambous poussés comme des individualités. Mais même pour arriver à dire un tout seul, les Chinois sont infoutus de le faire. Et ils ont utilisé un idéogramme qui veut dire « il y a une racine commune ».
C'est intéressant, ça pourrait être une source d'inspiration pour notre débat sur l'identité nationale. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que l'idéologie serait soumise à l'idéographie en Chine ?
Vous jouez sur les mots.
Tout à fait, comme vous.
Non, moi, je joue sur les idéogrammes, c'est pas pareil. Si tant est qu'on arrive à dire ce que c'est que l'idéologie, nous, nous savons très bien ce que c'est, et en particulier, nous savons très bien ce que c'est que l'idéologie marxiste-léniniste, qui a submergé la Chine pendant quelques dizaines d'années. Seulement, toute notion étrangère qui rentre en Chine doit se vêtir d'habits chinois, c'est-à-dire s'écrire en idéogramme. Nous, nous pouvons faire rentrer des notions chinoises dans notre vocabulaire, comme par exemple zen, oh soyez zen, chan, etc., yin, yang, tao, il suffit d'écrire T-A-O et chacun met dedans toutes les sottises qu'il veut. Mais en chinois, vous êtes obligé d'avoir des idéogrammes. Et donc, quand il s'est agi de traduire en chinois le nom de ce philosophe allemand né à Trèves et prénommé Karl, il y a eu des petits problèmes. Parce que dans la phonétique chinoise, qui est extraordinairement pauvre, il n'y a pas de R, il n'y a pas de X. Donc pour Marx, c'était un peu coinçant. Qu'importe, Marx, vous diront tous les Chinois, ça s'écrit en chinois « Marx ». Effectivement, bon, quand on a l'oreille un peu bouchée, c'est à peu près pareil. Sauf que c'est quel, avec quel idéogramme a-t-on choisi ? Ma, que, se. Se, ça veut dire la pensée, l'idée, la réflexion. On approche de l'idéologie quand même. Que, ça veut dire l'emporter sur, vaincre. Ma, cheval. Eh bien, ça, c'était génial. Parce que quand l'armée rouge en déroute, remonte vers la Chine, la longue marche, la fuite la plus victorieuse qu'on ait jamais vue dans l'histoire du monde, et qui rencontre des paysans. Eh bien, on n'a pas tout à fait le temps de leur expliquer tous les détails de l'analyse marxiste-léniniste de la situation. Les soldats disaient aux paysans, nous, on suit la pensée qui nous permet de vaincre avec la force d'un cheval. Marcuse. Ha, 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 qui disaient les paysans. Et comme ils voyaient que ces soldats-là étaient, eux, pour la première fois, des Chinois qui se battaient vraiment pour le peuple chinois et contre les Japonais, ils disaient, on va avec eux.
La force du cheval, donc. Tout à fait étonnant. Bah justement, on a parlé de la traduction des idéogrammes. Pour les marques étrangères, j'ai l'impression que c'est important pour la réussite sur le marché chinois, la manière dont on va traduire sa marque, même si on s'appelle pas Karl Marx.
C'est pas traduire, c'est transcrire en idéogramme. Et vous avez tout à fait raison. Et là-dessus, les Américains ont été beaucoup plus forts que nous. Il faut dire qu'il y a pas mal de Chinois aux États-Unis. Et que donc quelques grandes marques américaines ont choisi des noms, des translittérations de leurs noms en idéogrammes chinois de façon remarquable. Par exemple, pour ne pas la citer, la marque d'une boisson noire et pétillante dont la recette est dans un coffre à Atlanta s'appelle en chinois « appétissant et réjouissant ». Ça marche très bien. « Things go better with Coke, don't they ?» Sauf que ça s'écrit en chinois avec 4 caractères. Coca-Cola. Et donc il y a jeu de mots et jeu de sens. Certaines entreprises françaises ont totalement négligé ce problème et s'en sont mordu les doigts jusqu'à la troisième phalange. L'une d'elles, je ne la citerai pas par pure charité chrétienne, dont l'emblème est un lion et les usines près de Sochaux, avait choisi comme nom chinois Piaozhi. Phonétiquement, ça ressemble un peu à ce que vous voyez. Mais, c'était deux idéogrammes qui signifiaient diamant étincelant, donc ça va très bien, sauf que, en Chine du Sud, ça voulait dire tombe dans le trou. Est-ce que vous achèteriez une voiture chinoise de marque casse-gueule? Non. Eh bien, ça a posé des problèmes terribles. Mais enfin, bon, il y a quand même des marques françaises qui se sont très, très bien sorties de ce problème-là. Et je citerai en particulier deux distributeurs qui font des tabacs en Chine, Carrefour. Carrefour, ce n'est pas commode. Il n'y a pas de K en chinois, il n'y a pas de R, il n'y a pas de F. Carrefour. Eh bien, ils ont choisi comme nom chinois Jialfu, ce qui à l'oreille n'est pas tellement différent, et qui veut dire joie et bonheur dans la maison. Et puis, il y a un autre distributeur, c'est Auchan. Alors, Auchan, chez nous, toujours, à l'ancienne, c'est bien, la campagne, c'est mieux. Donc, il y a un petit piou-piou dans leur marque. Sauf que pécor, en chinois, paysan, c'est une insulte. Donc, on ne vend rien avec une marque qui évoque les paysans. Donc, mais Auchan a très bien compris ça. Et il s'appelle Auchan. O, c'est l'abréviation de Europe. Ojo. Et Shang, c'est un idéogramme qui veut dire à la mode de. Donc, oh, Shang, ça veut dire à la mode de l'Europe. Chicos, ça marche très bien.
On a intérêt à réfléchir avant de choisir ces idéogrammes. Pourquoi les Chinois d'aujourd'hui sont si superstitieux aux yeux des Européens?
Parce que ça fait 4000 ans qu'ils le sont.
Ils auraient pu changer.
Pourquoi est-ce que nous avons changé? Parce que. Nous sommes devenus cartésiens. Et qu'est-ce que ça veut dire, cartésien? Ça veut dire que nous avons appliqué aux données de l'espace et du temps la rigueur, la froideur de la mathématique. Quand on dit des coordonnées cartésiennes, ça veut dire que on va pouvoir y décliner des figures mathématiques. Et ça veut dire qu'on va considérer l'espace comme une donnée dans laquelle tous les points sont égaux. Eh bien, c'est pas vrai. C'est vrai pour les fusées, c'est vrai pour les bombes, c'est vrai pour les étoiles, mais c'est pas vrai pour les vivants. Regardez par exemple. Imaginez que vous êtes dans un cinéma, vous êtes dans la cabine de projection. Vous ouvrez la porte du cinéma et tous les gens s'installent. Est-ce que vous croyez qu'ils s'installent au hasard? Mais pas du tout. Ils s'installent là où ils se sentent le mieux. Les angoissés près de la sortie, les frileux près du chauffage, les myopes devant, les amoureux derrière, parce que c'est pas forcément le film qui les intéresse. Donc l'espace cinématographique, tous les sièges sont coefficientés différemment. Et de la même façon, les jours, les heures des jours, vous avez remarqué, elles ne font pas toutes 60 minutes. Il y en a qui passent tellement vite, il y en a qui mettent des heures à arriver. Et que donc, ce que nous appelons superstition est en fait la coefficientation psychologico-symbolique que les Chinois donnent à l'univers dans lequel les humains sont. Et que nous avons mathématisé un univers des choses, eux, ils ont humanisé un univers des êtres.
Une prise en compte de l'humanité, en quelque sorte.
Une prise en compte du fait que nous sommes des humains habitant un univers de choses. Et que donc, sans nous, ce ne serait peut-être que des choses, mais avec nous, c'est drôlement plus intéressant.
Alors, vous avez écrit un ouvrage intitulé « L'esprit des nombres ». Est-ce que les nombres ont une âme en Chine ?
Faudrait pour ça que les Chinois en aient une. Non, mais les nombres ont une valeur, ont une puissance. Et c'est ce que vous me disiez précédemment, c'est ce que nous appelons de la superstition. Oui, ouais, sauf que... Il y a eu 18 capsules Apollo qui sont parties dans l'espace depuis Cap Canaveral. Elles ont toutes réussi, sauf une qui a explosé. C'était laquelle ? Hein ?
J'en sais rien.
Apollo 13. Ah. Eh oui. J'y peux rien, mais 13, chez nous, est un chiffre qui n'est pas tout à fait pareil aux autres. Et que donc, dans toutes les cultures, il y a des chiffres qui ne sont pas tout à fait pareils aux autres. Et que pourquoi c'est cet Apollo qui a explosé ? Je n'en sais rien, évidemment. Mais il est possible qu'il y ait des constructeurs, des ouvriers qui ont travaillé à ces capsules, qui étaient tellement, mathématiciens, qui se sont dit « Non, attention, il ne faut pas céder à la superstition, donc je vais encore plus serrer le boulon. » Et c'est pour ça que ça a explosé. Bref, c'est la seule qui a explosé. La différence, c'est que, en Chine, les idées, les chiffres, les nombres, sont des idéogrammes. Et donc, il y a tous les jeux graphiques et phoniques avec les chiffres qu'il y a avec les idéogrammes. Et par exemple, pourquoi le chiffre 8 porte-t-il richesse ? En fait, il n'est pas porte-bonheur, il est porte-monnaie.
Ce qui peut être la même chose.
Pour les Chinois, bien sûr. Et bien, tout simplement parce qu'il se prononce comme, presque comme au nord, totalement comme au sud, comme l'idéogramme fa, qui veut dire se multiplier. Pourquoi est-ce que l'idéogramme 4, le chiffre 4 est négatif ? Parce qu'il est homophone du mot mort. Et que donc, par exemple, dans les hôpitaux chinois, il n'y a pas de quatrième étage. Mais vous voyez, sur l'ascenseur, il y a écrit 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est tranquille. Vous aimeriez, vous, être hospitalisé à l'étage morgue ? Pas vraiment. J'aime bien, ça ferait moins de trajets. Mais bon. Et donc, l'importance des chiffres est démultipliée dans l'univers chinois à cause de cette réalité idéographique. Et elle est tellement importante. Le chiffre 4, par exemple, il est le symbole du carré, de la terre, de ce qui est terre à terre, solide, matériel, peinard, tranquille. Vous vous souvenez quand Deng Xiaoping a lancé les quatre modernisations au début des années 80 ? Moi, j'ai fait mes premiers voyages en Chine dans les années 84 et je m'amusais toujours à demander aux guides « C'est quoi les quatre modernisations ?» Et il me répondait « C'est trop facile, c'est la modernisation de l'industrie, de l'armée, de l'agriculture et de... Soit ils ne savaient pas la quatrième, soit c'était toujours une quatrième différente. » Et pourquoi ça ? Parce que quand Deng Xiaoping a dit les quatre modernisations, dès qu'il a dit quatre, les Chinois ont cessé d'écouter. Le message était passé. Ça voulait dire, c'en est fini du maoïsme. C'en est fini de mettre la politique au poste de commande. Maintenant, on va faire une politique de type 4. Terre à terre, matériel, épais, enrichissant. Et donc, après tout, qu'est-ce que c'était ? C'est que le message était dans le chiffre.
Une bonne leçon pour nos politiques, en tout cas. Alors, vous êtes par ailleurs un spécialiste du Yi Ching, le livre des mutations, on l'appelle. Est-ce que ce livre conditionne encore la pensée contemporaine chinoise et est-ce qu'il sert à quelque chose encore aujourd'hui ?
Alors d'abord, il ne s'agit pas du livre des mutations. Désolé, ça c'est une vieille traduction d'époque colonialiste.
Ah bah voilà autre chose, je l'ai pourtant trouvé sur un site internet tout à fait sérieux que je ne citerai pas.
On trouve tout sur internet, y compris le pire. On l'a appelé longtemps comme ça. Et pourquoi ? Eh bien c'est parce que quand les jésuites l'ont découvert vers le XVIIe siècle, ils ont vite compris que cet ouvrage, qui avait la prétention d'expliquer le fonctionnement de l'univers sponte sua, par sa propre respiration, n'était pas excellent pour les intérêts de la maison qu'il représentait. Donc ils se sont empressés de le traduire dans le vocabulaire de la divination, de manière à l'enchaîner dans l'irrationnel, pour pouvoir s'en débarrasser. Et pourquoi ces changements et pas mutations ? Parce que qu'est-ce que nous apprend le Yi Qing, qui est l'ouvrage fondamental de la pensée chinoise. On raconte que Confucius en a abîmé 3 exemplaires à force de le lire. C'est une biveusée, bien sûr, mais ça montre simplement l'intérêt que les Confucéens portaient à ce livre. C'est le grand livre du yin et du yang. Qu'est-ce que c'est que le yin et le yang ? C'est l'art du battement. Ce n'est pas du tout l'art du classement, comme on le dit. Noir, blanc, chaud, froid, et en ajoutant les pires conneries qui soient, hommes et femmes. Non. Yin, comme l'expliquait Wang Pi, un des plus grands, le Rimbaud de la philosophie chinoise, qui a écrit un commentaire du Lao Tzu, du Confucius, du Yi Qing et du Livre des Rites, et qui après ça, et des 3 ouvrages, 4 ouvrages qui sont 17 siècles après, sont toujours très intéressants à lire. Et après les avoir écrits, il est mort à 24 ans. Wang Pi disait Yin, c'est ce qui va devenir Yang. Yang, c'est ce qui va devenir Yin. Alors homme-femme, s'il vous plaît, remettez-le dans votre poche. C'est absolument pas de ça dont il est question. Ce qui intéresse les Chinois, ce ne sont pas les situations, ce sont les propensions. C'est vers où ça va. Ce qui intéresse les Chinois, c'est pas quel temps fait-il aujourd'hui. C'est est-ce qu'on va vers l'été ou est-ce qu'on va vers l'hiver. Parce qu'aujourd'hui, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est un épiphénomène. Demain, ça sera différent. Par contre, si on va vers l'été, on peut commencer à ranger les pulls et s'intéresser aux maillots de bain. Si on va vers l'hiver, eh ben là, il faut aller acheter de la naphtaline parce qu'il faut sortir les pulls. Et que donc, c'est là où on voit la différence fondamentale entre le mode de pensée cartésien et le mode de pensée chinois. C'est que nous pensons par photo, les Chinois par vidéo. Pas pareil. Nous pensons, et donc quand nous faisons des projections, regardez dans tous les ouvrages qui font des projections, c'est à partir de camembert. Eh bien, les camemberts, ça coule, vous avez remarqué, quand on les laisse. Et que donc, nous, on ne fait qu'extrapoler le moment présent. Alors que les Chinois, ce qui les intéresse, c'est de voir quelle est la direction que prend une chose. Il y a une question qui m'agace particulièrement. Monsieur Javary, est-ce que les Chinois sont communistes ou capitalistes ?
Eh bien, je ne voulais pas poser.
Je vous en suis follement gré. En général, ça dépend de la personne qui me pose la question, mais si elle est vraiment sotte, ce qui, hélas, arrive parfois, je réponds ni l'un ni l'autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai en face de moi ? Quelqu'un qui me dit « Mais enfin, quand même, c'est le Parti communiste chinois qui dirige la Chine. » Non. Comment ça, non ? Et à ce moment-là, il y a toujours un appartement. Mais il est con, ce mec. Comment ça, non ? Eh bien, non. C'est le Gong Shang Dang.
C'est quoi, ça ?
Gong Shang Dang. Dang, ça veut dire parti. Shan, ça veut dire produire. Ou produit. Et Gong, ça veut dire pour tous ou en commun. Il est évident que lorsqu'en avril 1921, dans une arrière-cour de Shanghai, a été fondé le Parti communiste chinois, on l'a appelé Gong Shang Dang. Parce que le principe de base de la vulgate marxiste-léniniste, c'est la mise en commun des moyens de production. Oui, seulement la souplesse de l'idéographie chinoise fait que Gong Shan Dang s'est lu maintenant le parti qui produit pour tous. Et donc, les Chinois sont parfaitement d'accord que l'actuel parti qui gouverne la Chine remplit la mission que son nom lui assigne. Alors, communiste ou capitaliste ? Non, il remplit la mission que son nom lui assigne, produire pour tous les Chinois, redonner à la Chine sa place. Et que donc, ni marxiste, ni capitaliste, la Chine est un pays en voie de développement, est un pays en voie de recouvrement de la place que le colonialisme occidental lui avait ravie.
Et alors moi, je retiens l'idée de l'image fixe et l'image qui bouge, et c'est peut-être bien pour ça que les Chinois sont si bons cinéastes, finalement.
On voit là la femme de radio.